comme mon frère a dit tantôt, buvez de l'eau. Je vais en boire de l'eau. C'est important. Amen. Ça déshydrate. Rappelez-vous tantôt qu'est-ce que notre sœur, Mme Dion, a dit. Puis notre frère, pasteur, il a dit le chemin, Dieu trace un chemin. Notre sœur aussi a parlé aussi sur le chemin. Rappelez-vous ça. Dieu trace un chemin. Et je crois qu'il y a un chemin qui a commencé à être tracé depuis 2 semaines. Notre frère a parlé sur la dépression. Après ça, notre sœur, elle a parlé un peu sur le compromis, hein, l'interdit. Et moi, ça fait un mois que j'ai ça. Pourquoi les justes doivent-ils tant souffrir? On rentre un peu dans le contexte-là. On va prier avec. Seigneur, on sait que ta parole est inspirée. Seigneur, toute écriture est inspirée de toi. Et Seigneur, nous, on est juste des gobelets, des instruments, Seigneur. Et Seigneur, tu connais nos cœurs, mais on te demande, Seigneur, que ton onction puisse remplir mon cœur, Seigneur. Que ce soit des paroles de discernement, que ce soit des paroles de sagesse, Seigneur. Que tu me diriges au travers des Écritures, Seigneur, pour apporter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que les gens entendent, Seigneur. Mets une paix, Seigneur, dans chaque cœur. Ouvre les portes de les cœurs, Seigneur, même les cœurs les plus durs, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir une semence, Seigneur, qui va éclater, qui va produire du fruit. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va lire Juge 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel. Oh, on ne t'est pas rendu là. Okay. Juge 6, verset 11. On est tous là? Non? C'est on ne va pas souvent, là, hein? Fait que des fois, on te demande où est-ce qu'il est, juge, là. Hein? Nous autres, en vieillissant, hein? Moi, j'ai mis une petite chose pour me rappeler, là, tu sais, parce que. Oui, on sait qu'il est là, mais c'est des pages tellement minces, là, que... Bon. Puis l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du front au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Et il nous livre entre les mains de Madian. » On voit Gédéon, c'est un homme semblable à nous. Il déclare, « Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Madian, en hébreu, ça signifie un lieu de désaccord, un lieu de dispute, un lieu de lutte, un lieu de jugement. Impressionnant. Allons voir en Ézéchiel. Ézéchiel 14. Moi, je suis rendu vite parce que j'ai mis une petite chose. 14, 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Aussi, j'amenais l'épée contre ce pays, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Aussi, j'envoyais la peste dans ce pays, et je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par la justice. On peut percevoir la justice de l'Éternel dans ses jugements. Dieu déclare que même s'il y aurait trois justes au milieu de l'Église, juste trois, il ne pourrait rien y changer. C'est le plan de Dieu. Et quand on regarde le verset 21 à 23 du même chapitre, il dit « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoi que j'envoie contre Jérusalem, mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste. » Ah, un reste. Merci. Qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront près de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Seigneur, il dit oui. Quoi que j'envoie, là, quoi que je permets, là, il va avoir, malgré tout cela, un reste. Un reste qui va s'en sortir. Un reste qui va passer au travers. Comment? Dieu seul le sait. Il déclare, vous verrez par la suite leur conduite, leurs actions. Et cela démontrera un changement de caractère. Wow! Que Dieu produira en chacun de nous. Et nous deviendrons des consolateurs. Nous sommes ce reste, frères et sœurs. Et l'encouragement est, dans le verset 23, vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout cela, dit le Seigneur l'Éternel. Une raison. Tout a une raison. Nous lisons au psaume 77, 1 à 11. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Oh, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Asaph est dans la souffrance, là, dans une grande affliction. Il y a plusieurs chrétiens qui aiment le Seigneur et vivent cette situation. Multiples questions viennent à l'esprit quand tu parles ça. Hey, Seigneur, il va-tu rejeter pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? La parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Asaph prend une pause et déclare, « Mais ce qui me fait souffrir le plus, là, c'est que le Très-Haut n'est plus le même. » On peut lire en Lamentations 3. Lamentations 3, versets 31 à 33. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, il ne rejette pas toujours, mais, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et que le Seigneur afflige les enfants de Dieu. La pensée à garder dans chacun de nos cœurs, on a parlé un petit peu tantôt, le diable peut attaquer, mais il ne peut nous toucher, il ne peut nous affliger, il ne peut nous changer, il ne peut toucher un enfant de Dieu sans la permission du Seigneur. Asaph cite au verset 14, il dit, « Chaque jour, je suis frappé tous les matins, mon châtiment est là. » Plusieurs, c'est ça. Regarde, c'est toujours là. Mais premièrement, nous devons point être surpris quand nous souffrons. La Bible nous en avertit d'avant. Que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu en Christ, va souffrir. La Bible en est plein d'avertissements. Même le Nouveau Testament en parle. Alors, début, il s'y trouve une école de sympathie formée et dirigée par le Saint-Esprit et consiste de saints testés qui ont grandement souffert. Ils sont des saints de Dieu qui ont été testés. Ils ont été tassés, mis de côté, poussé à obéir, parfois en vivant une situation pénible pour comprendre le but de Dieu. C'est fort, hein? Ils ont été tentés, séduits, on peut dire éprouvés, maltraités. La Bible parle d'une communion à ces souffrances dans Philippiens 3:10. Je vais juste vous le lire. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme, semblable, égal à sa souffrance. Jésus a fondé cette école et pour notre information, il a mis en place le programme au complet. Il l'a établi puis il l'a édifié. Parce qu'il est celui qui a souffert le plus. Jésus a souffert mentalement, physiquement. Il était souvent dans l'angoisse. Les Écritures nous enseignent que Dieu a annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devrait souffrir et qu'il serait un sauveur souffrant. On marche dans le même chemin. Et que Jésus sympathise de toutes nos peines et de nos souffrances parce qu'il les a traversées. Eux tous, lui-même. parce que nous lisons en Hébreux 4, 15 et 16. On va le lire, tiens. Hébreux 4 et 16. Hébreux 4. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oh, merci Seigneur. Un sauveur qui peut sympathiser avec tout ce que nous traversons lui-même a été là. L'apôtre Paul a vécu sa vie entière au travers de la souffrance. Il n'y a aucun homme à part de Christ à souffrir comme l'apôtre Paul. Et le mot, cette souffrance qu'a passée, l'expression de sa souffrance s'est propagée à travers l'Église comme une traînée de poudre, comme un feu de forêt. Tout le monde le savait que Paul souffrait. Et les puritains d'autrefois citaient que les fils et les enseignants judaïques de Christ de ce temps-là ont justement sauté sur l'occasion. Ils le rapportaient puis ils disaient que si l'évangile de Paul là, était vrai, là, il dit, voyez-vous, il ne croit pas à la circoncision. Et cela prouve que Dieu n'est pas avec lui parce qu'il souffre. Alors, on ne croit pas à la doctrine de Paul parce qu'en regardant sa vie, ses souffrances, ses enseignants propageaient que si Dieu était vraiment avec lui et si Jésus était vraiment avec Paul, alors il ne souffrirait pas, il ne serait pas en prison, il ne ferait pas nos frères. Maintenant, que ce que je vais dire, là, c'est les puritains qui te parlent de ça. Ils disent, on entend dans la génération d'aujourd'hui des gens, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes avec cette même pensée. Oh, si l'apôtre Paul avait la foi comme nous l'avons aujourd'hui, nous, il n'aurait jamais été en prison, il n'aurait jamais souffert, il aurait pris sa guérison dans le nom de Jésus. Il aurait pris l'autorité qui lui est donnée. Lui dit, c'est un affront, c'est une profanation, un outrage de penser comme cela. Dieu a un plan et personne ne peut le changer. L'apôtre Paul est informé de tout ce que disait son entourage. Alors Paul déclare à l'église de Thessaloniciens dans une lettre, écoutez là, c'est là que je souffre, là. Vous le voyez, mais que personne ne soit dérangé par cela, soit bouleversé, soit contrarié par ces mots, cette détresse que je subis. Par ses propres mots, la douleur, la souffrance. C'est ce que Paul disait. Il dit, car vous savez vous-même qu'on est destiné à tout cela. Nous avons été destinés à souffrir, nous en avons la preuve. Tournez pas. Mais en Jean 6, 33, nous lisons, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais vous auriez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tribulation, en grec, veut dire clipsis, voulant dire angoisse, fardeau, persécution, trouble. Jésus nous l'atteste et nous en avise. Sur cette terre, vous allez subir, endurer, supporter de l'angoisse des fardeaux, de la persécution. Vous allez avoir du trouble, confusion, désordre, de l'agitation, des émotions. Hein, on pense ça, hein, des fois. Hein, on a le package deal, hein, des fois, hein, le trio. Et tous ceux d'entre nous qui prêchent cette vérité que je suis en train de dire, il nous appelle prédicateurs pessimistes, alarmistes. Très amusé. Hein?
Bon, voyons donc ce que tu dis là, toi. Hein?
Mais Paul avertit les croyants qu'ils vont expérimenter de profondes souffrances personnelles. Maintenant, peut-être tu expérimentes une profonde souffrance. Écoutons ce que Paul dit. Actes 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul est allé confirmer aux âmes des disciples en les encourageant à garder la foi. Il leur dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux, mes amis. Deuxièmement, le but de la souffrance. Le but est de produire, former des consolateurs dans le corps de Christ. Je le répète, le but de la souffrance est de produire, de former des consolateurs dans le but de Christ. Il y a une école de sympathisants. Nous avons été testés dans le feu et le résultat va prouver que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Toute une promesse, toute une espérance. Nous lisons en 2 Corinthiens 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez peur ou souffrant, vous avez aussi part à la consolation. Hein? C'est un deal. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous espérions même de conserver la vie. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. En d'autres mots, le Seigneur, il dit, je t'ai fait traverser cette épreuve pour que tu puisses en sortir comme témoignage de ma fidélité. Puis tu vois sortir. Il est fidèle. Tu pourrais te tenir devant n'importe qui vit la même chose que tu as traversée et tu peux leur dire, tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. J'ai été là. Et Dieu est fidèle. Troisièmement, certains d'entre nous endurent une si grande souffrance parce que tu as été châtié par le Seigneur. Un autre aspect. Le Seigneur voit qu'il y a un cœur et qu'il faut le briser. D'autres versions vont dire le broyer, le dévaster, le fracasser. Il voit de même une volonté qui doit être brisée, changée. Et s'il te châtie en ce moment, Il le fait par amour. Quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tu es sous la verge du châtiment du Seigneur, tu n'as rien à craindre, sauf, juste sauf, si tu as une nature têtue et têtue dure, oui. Tu es châtié par le Seigneur, puis la parole a dit que c'est pour ton bien, et cela va produire, par la suite, des fruits paisibles de justice. Ou si tu es formé, ça va te détruire, ça va t'anéantir, ça va te briser et te défier. Ah, que ça va te défier, parce que tu es affronté, tu es menacé, selon la parole, tu es confronté. Alors, mais c'est quoi, là, Pierre, là, la ligne de fond? Tout cela pour dire quoi, là? Ben, quand ça arrive, débarrassez-vous de toute pensée d'abandonner la serviette. Débarrasse-toi de ça, là. Apporte toutes tes pensées d'assouplissement, là, de relâchement à la totale obéissance au Seigneur. Ce qui est important de comprendre là, ce matin, là, ce ne sont pas des afflictions ou des souffrances d'elles-mêmes qui nous enseignent. Ce n'est pas ça qui nous enseigne. Parce que nous connaissons plusieurs personnes de bons chrétiens qui ont été anéantis, dévastés par leur souffrance. Ils ont été époustouflés, étourdis, assommés même par cela. On connaît tous quelqu'un dans cette situation qui a même abandonné, qui a dit « Ah, moi, là, je comprends pas, là. Explique-moi, là. » On voit souffrir de bonnes personnes et à cause de cela, ils abandonnent. Ils quittent le Seigneur. Ils disent « Ah, ça marche pas. » Ils abandonnent. Non, non et non. Il ne faut pas. La seule façon là, que vous êtes formé, éduqué, équilibré, modelé, c'est en souffrant. Et je le dis, c'est par la souffrance qui a appris l'obéissance. Le moyen pour que ça marche, là, pour que ça fonctionne, pour que ça produise le fruit de justice, qui est seulement par Jésus-Christ, en vous, ça veut dire en vous, et en moi, c'est pas souffrir, mais c'est de comprendre la souffrance. Quand tu le comprends, là, tu vas garder ta joie, ta paix. Tu vas le comprendre, puis tu vas t'en remettre. Tu vas laisser ça de côté. Mais on ne veut pas comprendre. Pas même le toucher du droit. Hein? Attends, on veut se sauver. Hein? Je ne veux pas le concevoir, ni l'imaginer, puis ni le réaliser. David cite au psaume 41, 1 à 5. Je vais vous le lire moi-même parce que je le lis de la parole de vie, parce que je l'ai bien aimé. Il est heureux celui qui fait attention aux faibles. Rappelez-vous là, de cela. Qui fait attention aux faibles. Le jour où cela va mal pour lui, le Seigneur vient à son secours. Le Seigneur le garde en vie. Il le rend heureux sur la terre. Il ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Il prend soin de lui pendant sa maladie. Wow! Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme David disait, j'ai dit, « Oh Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » C'est la première chose qu'on devait dire au Seigneur. « Oh, que j'ai manqué de confiance. » Et je n'ai aucune question à te demander ou à comprendre, Seigneur. Mais il y a quelque chose qu'on a fait souvent, la plupart de nous. C'est fort, là, qu'est-ce que le puritain dit, là. Je ne sais pas comment ça va résonner à certains, mais c'est fort, qu'est-ce qu'il dit. Quelque chose qu'on fait souvent. Par la foi, prends ta guérison. Un père de l'Église dit, ce n'est pas sage, c'est maladroit. Maladroit. Il faut du discernement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention au faible. Le faible qui ne comprend pas, le faible qui ne réalise pas ces choses-là, il va dire, ben oui, qu'est-ce qui se passe là avec moi? Là? Heureux celui qui fait attention au faible, dans le psaume 41. Tu sais? Notre parole soit toujours une bénédiction, qui va apporter quelque chose, qui va construire, mais quelque chose que celui qui est faible, qui ne comprend pas, va dire, ben oui, mais si, comment ça, moi, je n'ai pas guéri, comment ça, ça, je ne reçois pas. Vous allez voir à la fin que c'est choisi. Ce sont les afflictions qui sont acceptées et non rejetées. Parce que la main de Dieu a permis. Il l'a fait dans un but précis. Nous autres, on le disait toujours dans le mouvement, vous devriez vous rappeler de ça, c'est la volonté permissive de la part de Dieu. Dieu, dans sa volonté, il y a une permission. Dans Job, on peut y découvrir, dans la PDV, c'est moi qui vais la lire encore, tous ces malheurs subis, il est cité, touche un peu à sa personne, il te maudira en face, j'en suis sûr. Le Seigneur dit à l'accusateur, ah, d'accord, il est en ton pouvoir, mais il ne fallait pas mourir. Il a passé au peigne fin. Hein? Voici un bon argument pour le diable. N'importe quelle flèche enflammée de l'enfer qui vient à vous et qui essaie de t'accuser que Dieu est en colère contre toi ou à cause de ta souffrance. Mais aussi, attention, il y a des gens qui souffrent à cause du péché. C'est tout différent, là. Certains d'entre vous sont sous le châtiment du Seigneur. Oui, c'est sûr. Mais il le fait par amour à ses enfants. Voilà qu'est-ce qu'on répond au diable à ce temps-là. Hey, Jésus-Christ, mon Seigneur, a pu seulement souffert dans la chair, puis il était parfait. Il dit, n'a-t-il pas souffert? Dites-lui, il a souffert, lui. Paul et tous nos pères de l'Église ont subi de grandes afflictions et Dieu les aimait beaucoup. N'est-ce pas? Ils ont tous souffert, dit l'Écriture. Au lieu de souffrir, ils voient les afflictions comme étant un signe de mécontentement de Dieu, mais plutôt souligne, met en évidence, affirme-le que je suis un enfant adopté de Dieu. Et Dieu prend soin de moi avec son enfant. Il corrige, il met chaque enfant. Parce qu'il est écrit, « Où il y a un de mes fils que je ne châtie pas, si je ne châtie pas, ce n'est pas un fils. Hein? » On aime nos enfants. Hein? Des fois, hein, bonne tape ses fesses, un enfant, là. Hein? Des fois, nous autres, on dit, une bonne petite tape en arrière de la tête, là, ça va lui faire réfléchir. Là, Conclusion. Je cite la PDV, la parole de vie, acte 1, 6 et 7. Juste avant de monter au ciel, les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui. Demande, Seigneur, est-ce que maintenant tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où toutes ces choses-là doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Et lui seul a le pouvoir de le faire. Dans King James, il va dire, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi de connaître les temps ou les saisons. C'est le Père qui l'a fixé de sa propre autorité. Qui a l'autorité? Le Father. Hein? Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que, je vais terminer avec ça, je vais vous dire comment est-ce que moi, je comprends un peu la foi, mon acheminement. Quand j'avais 27 ans, j'ai débuté dans le Seigneur, j'ai commencé à souffrir, à avoir des muscles atrophiés dans le dos et tout cela. Ils pensaient que j'avais la maladie, ceux qui parlent des muscles, là, je ne me rappelle pas. Non, t'as pas fibromyalgie, ça. Ils pensaient que c'était comment ça s'appelle? Hein? Non, là, Jerry Lewis, Bon, en tout cas, il pensait que c'est ça que j'avais. Et j'avais des chocs, là. Je dormais pas. Puis, t'avais vu que le type, un soir, je me lève dans la nuit, puis je m'en vais dans le salon, puis je pleurais. Puis je dis, Seigneur, j'ai 27 ans. t'es un bébé dans le Seigneur, puis je veux te servir, là. Fais quelque chose. Puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire, aujourd'hui, tout va changer. J'ai commencé à devenir un guerrier. La santé a changé. J'ai pu servir le Seigneur, incroyable. Il m'a pas guéri là, de ça, là. Mais il m'a donné une paix, une joie, une santé incroyable. Et 10 ans après ça, ben, je dirais entre les 10 ans, vous vous rappelez tous quand André, même pasteur Claude, moi, on a partagé qu'un soir, on priait et tout ça, puis on avait été transportés de l'arrière à l'avant 2 fois. Fait que, après 10 ans, je demandais tout le temps, Seigneur, c'est quoi la signification là, pour moi? Et Dieu me dit, un soir, Pierre, 2 fois tu as été transporté. La première fois que ça t'est arrivé, c'est quand tu as crié dans ta chambre. Il dit, je t'ai pris complètement de l'arrière, j'ai été transporté en avant, puis tu es devenu un guerrier. Il dit, la même chose va se reproduire. Je vais te reprendre de l'arrière, puis je vais t'emmener de l'avant, puis je vais te rendre encore plus apte que tu l'étais déjà, et tout cela. Et je vois que Dieu est en train de le faire. Je le vois. Mais je comprenais pas. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que je comprends que la foi, là, vraiment, là, c'est de faire confiance. C'est de continuer comme notre soeur, de marcher toujours dans le chemin. Juste marcher, continue. C'est pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui peut m'arriver, mais faire confiance, de pleurer, de crier à Dieu, de juste lui donner. Parce que Dieu est fidèle. Dieu va toujours consoler ses enfants. Dieu va toujours mettre un baume sur nous. Il va toujours nous donner la force. Il va nous changer. Il va nous rendre la paix que l'ennemi nous a volée, la joie que l'ennemi nous a volée. Il va nous donner au centre, 7 fois plus, je dirais. C'est ça, Dieu. Mais je ne comprenais pas, moi. Hey, écoute, là, 27 ans, aujourd'hui, je vais en avoir 71. Hein, je réalise qu'est-ce que Dieu a fait. Mais c'est que il a fallu que je marche tout simplement. Que Dieu avait toutes choses entre ses mains. C'est là que... Puis, demandez-le au Seigneur. Il va vous donner un son. Il va faire quelque chose de spécial pour vous. Parce que moi, c'est ça qui m'a tenu. Parce que je pensais tout le temps ça. Tu l'as dit. C'est comme si, en autre mot, je te dirais... tu sais, regarde, ça, c'est la promesse que je te fais. Tac! Essaie-le, tu sais. Mais moi, il nous l'a montré parce qu'on a vécu cette chose-là. On avait peut-être dans la trentaine qu'on était dans ce temps-là. Puis regarde, pendant 40 ans, mes propres, tu sais que Moïse dans le désert, là, tu sais, là, mais là, il a fallu apprendre bien des choses. Mais je vous le dis, il y en a qui sont jeunes, là. Hey, regarde-moi. Moi, je pensais, là, ça n'a pas d'allure, tout cassé corps. Peut passer, tout ça. Mais Dieu dit, reste dans la barre. Fais juste continuer ton chemin. Fais pas comme dans l'histoire de... Il faudrait qu'on regarde ça peut-être un jour, pasteur. Moi, je le lis, ça vient de la Suisse, c'est le voyage du pèlerin. Puis là, tout d'un coup, là, il dit, il y a un grain ici, puis il tombe. Il dit, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie. Je tombe déjà dans un trou de boue, puis toutes sortes de choses m'arrivent, tu sais. C'est ça la vie. Oui, mais Dieu va t'en sortir de la boue, il va te faire voir les mers, il va te montrer quelque chose. Puis c'est un fait. On va devenir des consolateurs, on va devenir des... Qui est mieux de consoler quelqu'un qui a perdu un bras que quelqu'un d'autre qui n'a pas perdu? Hein? Si tu n'as pas perdu, tu essaies de le consoler. Il va dire, ouais, toi, je vais te couper le bras, moi. Tu vas voir comment tu vas passer, voir, tu sais. Hein? C'est à peu près comme ça. Hein? En tout cas, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur